Habemus Papam.
Hildebrand naît aux alentours de 1020, dans un village de Toscane. Son père est charpentier, mais on le confie à un oncle abbé à Rome. Ses études finies, il intègre le clergé de celui qui deviendra Grégoire VI. C'est le début d'une grande carrière que nous raconte l'historien Yvan Gobry.
Hildebrand est alors le collaborateur le plus ardent et le plus efficace des papes Étienne IX, Benoît X, Nicolas II et Alexandre II. Ce dernier pape assura un pontificat de 12 ans, pendant lequel il bénéficia de l'aide quotidienne et avisée de Hildebrand dans le gouvernement de l'Église.
Alexandre II décède en 1073.
Ce fut Hildebrand qui ordonna ses funérailles, qui procéda le lendemain à l'inhumation solennelle du défunt au latron. À ce moment, la foule qui assistait à la cérémonie, clercs et dignitaires laïcs, cria Hildebrand pape. Les cardinaux se réunirent alors au latron et élurent le cardinal pape à l'unanimité. Il prit le nom de Grégoire VII.
De fait, l'Église est en crise. Les évêques sont souvent inféodés, les prêtres vivent en couple ou se marient, et les biens du clergé sont marchandés. Le nouveau pape doit tout de suite se battre sur deux fronts.
Canonique contre les prélats qui affranchissaient des règles de l'Église. Politique et militaire contre les princes qui violaient les droits du sacier.
Premier de ces princes, le roi Henri IV de Germanie. Il est directement visé quand Grégoire VII établit que l'Église romaine est seule infaillible et que le pape a le droit de déposer les souverains. C'est l'un des piliers de ce qu'on appellera la réforme grégorienne.
Prévoyant des orages politiques, Grégoire VII s'assura de la vassalité des princes italiens. À l'extérieur, il jouissait de grands seigneurs qui pouvaient se déclarer des féaux. Ce fut ainsi que, au nord des États pontificaux, il reçut la soumission entière dévouée de celle qui allait être le bras armé du Saint-Siège, Mathilde, grande comtesse de Toscane. C'était pour Grégoire VII une protection providentielle, car sans cette femme, on ne sait pas comment il aurait échappé à la fureur de l'empereur germanique Henri IV.
De fait, le conflit ne tarde pas à s'envenimer. Henri IV convoque une assemblée des évêques de Germanie.
Les 25 évêques présents, mais les autres s'étaient abstenus, déclarèrent refuser obéissance à Grégoire VII. Coupable, disait-il, de détruire la paix de l'Église, Henri envoya au pape une lettre comminatoire lui enjoignant d'abdiquer sa dignité et de quitter Rome. En réponse, Grégoire déclara Henri IV indigne de gouverner la Germanie et l'Italie et délia ses sujets devoir d'obéissance.
Henri de Germanie fait alors intervenir son allié à Rome, le préfet Sensus.
Dans la nuit de Noël 1075, tandis que le pape célébrait la messe à Sainte-Marie-Majeure, Sensus pénétra dans la basilique à tête d'une troupe féroce qui massacra les fidèles, se jeta sur le pape et l'emmena garrotté. Les ravisseurs espéraient prendre la route des Alpes et gagner la Germanie. Mais, à la nouvelle de l'attentat, les Romains fermèrent toutes les portes de la ville. Sensius se réfugia avec son prisonnier dans une tour à laquelle la foule donna l'assaut et délivra le pape. Sensius se jeta à ses pieds pour implorer miséricorde. Et il reçut, pour toute pénitence, de faire un pèlerinage à Jérusalem.
Mais Henri ne s'avoue pas vaincu et il fait parvenir au pape une lettre injurieuse.
Moi, Henri, par la grâce de Dieu, je te dis, descends, tu es maudit pour les siècles des siècles.
Quelques temps après, voici Henri parti directement à l'attaque des États pontificaux. Et c'est là que la comtesse Mathilde de Toscane intervient.
La grande comtesse possédait à 6 lieues de Reggio la forteresse de Canossa. Elle y conduisit le pape, s'y trouva en parfaite sécurité. Et elle apprit bientôt qu'Henri campait avec son armée tout près. Alors elle prit sa décision. Elle alla elle-même trouver le roi dans son camp. Elle l'amena dans sa forteresse, y boucla et fit fermer toutes les portes derrière lui. Au bout de 3 jours, l'empereur, disons le roi germanique, éboussolé et désolé, ne sachant plus quel pouvoir exercer, alla se jeter au pied du pape et lui demanda pardon. Le 24 janvier 1069, humilié, pénitent, promettait de comparaître devant la diète nationale et être jugé, et s'il était reconnu innocent, d'être soumis à l'avenir au pontife romain.
Mais une fois rentré chez lui, Henri ne tarde pas à revenir sur sa parole. En 1080, le pape le fait excommunier.
réponse, le roi fit élire par des évêques à sa dévotion un antipape dans la personne de Guibert, archevêque intrus de Ravenne, qui prit le nom de Clément III. Et alors, se sentant maintenant suffisamment en force, surtout à Rome où ses partisans avaient pris le pouvoir, 21 mars 1082, Henri IV fait dans Rome une entrée triomphale. En le Saint-Jour de Pâques, l'antipape Clément III sacré le roi excommunié comme empereur romain germanique.
Mais un nouveau chevalier blanc va voler au secours du pape.
Robert Guiscard, duc de Pouille et de Calabre, un Normand du Cotentin venu avec une poignée de vaillants conquérir le sud de l'Italie. Ce héros stupéfiant venait de remporter à Durazzo, sur l'empereur de Constantinople, Alexis Comnène, une victoire stupéfiante à 1 contre 20. Et il s'apprêtait à marcher sur Constantinople. On considérait d'ailleurs que la chose était faite, il allait prendre la ville impériale. Il considéra que son devoir était de délivrer Rome. Alors, après avoir vaincu l'empereur d'Orient, il aurait la gloire de vaincre l'empereur d'Occident. Chevalier, il envoya cérémonieusement avertissement à Henri IV. « Sache que je viens délivrer le pape, retire-toi, sinon tu auras à me combattre. » Eh bien, Henri prit peur. Devant la menace de ce qu'on appelait la fureur normande, il s'enfuit avec ses...
Mais Henri n'est pas encore totalement vaincu. Le pape va charger l'un de ses évêques d'organiser un concile en Saxe.
Les évêques nombreux reconnurent la primauté du siège apostolique et la légitimité de Grégoire VII. Ils portèrent l'anathème contre l'antipape, le pseudo Clément III. Le pape, réfugié à Salerne, se reposait de ses luttes, mais était en même temps brisé par elle. Il ne survécut que 3 mois à son exil. Le 25 mai 1085, il rendit l'esprit, après un pontificat de 12 ans.
C'était l'historien Yvan Gobry, auteur d'un dictionnaire des papes, paru en octobre aux éditions Pygmalion.